Il est 11h30, Infomag, Jean-François Bodin.
Emmanuel Macron garde la main sur le dossier calédonien. Sonia Backès l'a rencontré une heure la nuit dernière pour nous à l'Élysée. Vous l'entendrez au début de ce journal. L'État poursuit et prolonge son soutien au territoire. C'est une information Radio Rythme Bleu. Une nouvelle enveloppe de 16 milliards de francs est affectée pour la poursuite des dispositifs déjà existants pour les mois de septembre et octobre. Les boîtes mail Lagoon, de nouveau opérationnelles. Le fournisseur d'accès relance ses services après la cyberattaque du 20 août et assure relever son niveau de sécurité sur tous ses services. Mettre la recherche en avant, c'est l'objectif des doctoriales demain à l'université. Jean-Marc Boyer, le directeur de l'école doctorale de l'UNC, sera notre invité. En métropole, toujours pas d'annonce de nouveau Premier ministre. Chaque candidat pressenti pourrait se retrouver sous le coup d'une motion de censure. Et puis en sport, une journée sans or pour la délégation française aux Jeux paralympiques, mais de beaux podiums, notamment en natation et en tennis de table. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Le président de la République garde le dossier calédonien en main. C'est la conviction de Sonia Backès qui s'est entretenue pendant plus d'une heure hier soir pour nous avec le chef de l'État. L'occasion d'un large tour d'horizon de la situation et de quelques annonces comme la confirmation d'une réunion à Paris des acteurs politiques calédoniens. Elisabeth Noir.
Plus d'une heure d'entretien en tête-à-tête avec le président de la République pour la présidente de la province sud. Comme elle l'a fait avec ses différents interlocuteurs et dans les médias métropolitains, Sonia Backès a d'abord dressé le portrait d'une Nouvelle-Calédonie au bord du chaos économique et social. Et puis la question de l'ordre public a bien sûr aussi été abordée avec Emmanuel Macron.
Il était assez inquiet de la situation à Saint-Louis et de la situation pour les gens du Mont-d'Or Sud. Donc il m'a indiqué qu'une réunion aurait lieu la semaine prochaine pour régler la situation et permettre de rendre la route à nouveau utilisable. On a ensuite abordé le sujet économique. Donc moi, ce qui me tient à cœur, c'est qu'au-delà des aides d'urgence qui sont évidemment nécessaires, on passe très rapidement à une phase avec de gros investissements publics lancés de manière à redonner du travail et de la visibilité aux Calédoniens. Donc il m'a indiqué adhérer à cette vision de nécessité d'investissement en plus des aides qui sont données sur le chômage ou sur les aides d'urgence en fait, qui sont apportées aux entreprises. Je lui ai indiqué l'échéance, que si à 15 jours, 3 semaines, on n'avait pas de solution, le jeu de domino commencerait à s'effondrer en Nouvelle-Calédonie. Donc il m'a indiqué d'une part en être parfaitement conscient, d'autre part adhérer à cette vision de nécessité de passer à une phase d'investissement.
La nécessité donc de passer à une phase d'investissement économique. Mais avec Emmanuel Macron, Sonia Backès a aussi parlé de la situation politique calédonienne.
On a abordé évidemment la difficulté liée à la division du camp indépendantiste et à l'extrémisation de la partie UC-CCAT avec la nomination sans doute non conforme de Christian Théin à la présidence du FLNKS. Il m'a indiqué vouloir s'occuper du dossier en direct avec le soutien du président du Sénat et de l'Assemblée nationale parce que je crois que c'est un dossier qui d'une part lui tient à cœur et d'autre part dans la situation d'inconnu gouvernemental, je pense que c'est rassurant pour la Nouvelle-Calédonie. Il veut reprendre le dialogue politique sans doute dans les prochaines semaines. Je laisserai évidemment s'exprimer sur le sujet, pour remettre autour de la table les uns et les autres. Bon, il est conscient de la difficulté à trouver une solution.
L'occasion justement pour Sonia Backès de présenter au chef de l'État le projet institutionnel sur lequel travaillent les partisans du maintien dans la France.
J'ai abordé avec lui la nécessité de mettre en place une solution qui permette une forme de fédéralisme interne, c'est-à-dire que chaque collectivité puisse développer son propre projet de société compte tenu de la situation et de revenir à l'esprit des accords de Matignon en 88 où chacun, là où il est majoritaire, peut développer son projet de société. Puis on a longuement abordé également la situation internationale avec les ingérences de l'Azerbaïdjan et puis la mission du Forum des îles du Pacifique qui m'a indiqué avoir bien cadré pour éviter qu'on puisse avoir une mission qui vienne encore rajouter de l'huile sur le feu d'une situation calédonienne déjà très compliquée.
Actualité politique et relations internationales au menu de cet entretien, au cours duquel le président de la République a également confirmé sa volonté de réunir les acteurs politiques calédoniens à Paris fin septembre ou début octobre.
Lui m'a confirmé qu'il maintenait ce projet fin septembre ou début octobre. Je pense qu'il ne pourra pas inviter le FLNKS au titre du FLNKS. Il invitera sans doute les parties prenantes et puis chacun se positionnera en fonction de ce qu'il souhaite. Mais en tout cas, lui, il invitera les partis politiques et les groupes politiques présents au Congrès. Nous, on ira, on participera. Et puis après, vous savez quoi, chacun prend ses décisions et ses responsabilités. Moi, il m'a dit à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Je ne crois pas que les dates soient calées, mais c'est lui qui les annoncera. Mais en tout cas, il m'a confirmé la volonté de le faire. Et il m'a indiqué très clairement qu'il garder le dossier en main, en collaboration étroite avec le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée. Et dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie est une affaire courante parce qu'une affaire urgente, les problématiques économiques peuvent être traitées dans ce cadre-là. Je n'ai pas le sentiment, en tout cas, il m'a laissé comprendre très clairement que l'absence de gouvernement n'était pas un problème pour la Nouvelle-Calédonie.
Des propos recueillis par notre correspondant à Paris, Xavier Robert. Sonia Backès ajoute que le président de la République lui a confirmé sans ambiguïté sa volonté que soit respecté le résultat des 3 référendums et la nécessité de rechercher une solution de très long terme pour la Nouvelle-Calédonie. Un président qui, selon la présidente de la province sud, suit attentivement la situation sur le territoire et qui a notamment demandé des nouvelles de Virginie Ruffnac et de leur avant-dégoût qui ont été agressés samedi à l'île des Pins. Sonia Backès va rentrer prochainement sur le territoire après ce séjour à Paris, au cours duquel elle a eu de nombreux rendez-vous avec des personnalités politiques. Elle a notamment rencontré l'ancien président Nicolas Sarkozy, le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yael Braun-Pivet, avant d'être donc reçu ce mardi à l'Élysée par Emmanuel Macron.
Et à propos d'économie, l'État poursuit et prolonge son soutien au territoire. C'est une information Radio Rythme Bleu. Depuis l'insurrection du mois de mai, le ministère du Budget et des Finances aide à la fois les institutions et le monde économique avec le financement du chômage partiel ou la mise en place d'un fonds de solidarité de l'État pour les entreprises. Fin août, cette intervention représentait déjà 35 à 40 milliards de francs injectés dans l'économie calédonienne par la France. Des dispositifs qui sont prolongés avec une nouvelle enveloppe de 16 milliards de francs. C'est ce que nous a annoncé Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat.
Tous les dispositifs, que ce soit sur le premier axe qui est le soutien aux collectivités ou sur l'autre qui est le soutien aux entreprises, l'aide de l'État se poursuit sur ces deux axes. Alors sur l'activité partielle, qui est un dispositif extrêmement coûteux, nous le savons, déjà 100 millions d'euros, 12 milliards de francs pacifiques, ont été versés à la Nouvelle-Calédonie. Donc ça signifie une prolongation de 2 mois des dispositifs d'aide. Le dispositif est reconduit à l'identique, c'est-à-dire que le plafond qui est pris en considération reste à 2,5 SMG. Sur le fonds de solidarité aux entreprises, là aussi, il y a une prolongation sur le mois d'août. C'est un dispositif qui est coûteux, qui va coûter donc 20-25 millions d'euros supplémentaires, environ 2,5 milliards à 3 milliards de fonds pacifiques supplémentaires. Et puis, sur l'autre axe, sur le soutien aux collectivités et aux services publics, il y a là une aide de 6 milliards de francs pacifiques qui est en grande partie fléchée sur le soutien à la CAFAT au RUAM, notamment pour que eh bien, la collectivité puisse verser au RUAM et donc derrière aux hôpitaux l'argent dont ils ont besoin pour fonctionner. Donc ce soutien de l'État, il est indéfectible, et il est également indéniable et il se poursuivra.
Et pour les premières aides, l'État n'a pas demandé de contrepartie, mais pour la deuxième phase de soutien, Paris demande à la Nouvelle-Calédonie la mise en place de réformes structurelles.
La suite de ce soutien devait accompagner un mouvement de réformes que devait accomplir le territoire. Pas parce que l'État est méchant, mais tout simplement parce que le territoire en a besoin. Ces réformes, elles sont connues depuis longtemps, elles sont indispensables à la bonne marche du territoire. Alors, il y a des premiers efforts et des premières réformes qui ont été adoptées. Je pense notamment à NRCAL, je pense à la CLR. Ce sont des réformes qui sont courageuses, qui ont été beaucoup trop longtemps différées. Pour la CLR, c'est la même chose. Ce sont des systèmes qui sont en déséquilibre depuis des années et des décennies. Il faut poursuivre ce mouvement. Alors, le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, aujourd'hui, est engagé dans une démarche dite S2R, vous savez, reconstruction, refondation. C'est une démarche que nous souhaitons accompagner sur un plan financier, que nous souhaitons accompagner sur un plan technique, et donc l'aide de l'État ne sera pas apportée à fond perdu. Il faut que ce système calédonien évolue. Pour nous, de notre côté et du côté de l'État, on ne veut pas dicter une réforme. On espère que des effets à obtenir seront recherchés. Après, en quoi consiste la réforme ? Ça sera aux acteurs calédoniens d'en décider.
D'autre part, de nombreux bâtiments publics ont été victimes des exactions pendant les émeutes et l'État va investir dans leur reconstruction avec une priorité, nous a dit le secrétaire général du Haut-Commissariat.
Ces dispositifs sont en cours d'élaboration, en cours de constitution. Le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, et la ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, ont pris des engagements très clairs sur le fait d'accompagner en particulier la reconstruction scolaire. Vous savez qu'on a des dizaines de bâtiments scolaires qui ont été dégradés ou détruits depuis maintenant des mois. Et donc, il va y avoir une aide massive, probablement, sur, en particulier en priorité, le scolaire, et puis de manière plus large, sur les bâtiments publics qui ont été détruits ou dégradés. Donc ce travail se poursuit et ce travail se fait en collaboration là aussi avec les services de l'État en centrale et avec les collectivités ici sur place.
Par ailleurs, à 7h30 ce matin sur notre antenne, Stanislas Alfonsi a tenu à répondre aux critiques formulées par certains sur les aides de l'État.
On critique l'État en expliquant que ce soutien est trop tardif, il n'est pas assez massif, c'est trop peu, pas assez vite, etc., etc. Il faut tout de même rappeler une chose. L'État a trouvé dans cette période, pour venir en aide à la Nouvelle-Calédonie, 50 milliards de francs pacifiques, 400 millions d'euros. Nous connaissons tous le contexte très restrictif du budget de la nation. Le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère du Budget, restreint les budgets de tous les ministères dépensiers. Et dans tout ça, il y a un territoire qui fait exception et pour lequel on trouve des centaines de millions d'euros à une période où on en enlève à tout le monde. Et ce territoire, c'est la Nouvelle-Calédonie. Alors, pour ne rien vous cacher, le ministre s'en est un petit peu ému la semaine dernière lorsqu'il a réuni des acteurs de la vie économique et politique du territoire. Il a dit que chacun devait avoir conscience des efforts fournis par l'État et par la nation dans le cadre de cette solidarité nationale. Alors je veux bien qu'on critique tout et tout le monde, et surtout l'État en particulier, mais il faut tout de même avoir un tout petit peu de bonne foi et voir que l'effort est massif et que l'État est là.
Stanislas Alfonsi, le secrétaire général du Haut-Commissariat, qui était donc notre invité ce matin à 7h30, a confirmé aussi que le dossier calédonien était considéré comme urgent et que les ministres et les administrations sont pleinement mobilisés pour soutenir le territoire. Un entretien retrouvé évidemment sur notre site internet. Les boîtes mail Lagoon sont de nouveau accessibles depuis hier soir. Les équipes techniques continuent de relancer les services. Le fournisseur d'accès à Internet a été victime, vous le savez, d'une cyberattaque d'ampleur le 20 août dernier et il n'a pas pu bénéficier de ses sauvegardes puisque son data center a brûlé lors des émeutes. Le processus de retour à la normale prend donc du temps, explique Stéphane Matteo, le directeur général de Lagoon.
On attend encore quelques vérifications d'usage pour l'annoncer officiellement dans la journée, mais on a relancé les boîtes mail hier soir. Alors, une partie des mails envoyés ont été récupérés. À un moment donné, ces boîtes mails n'étant plus accessibles, les expéditeurs de courriel ont reçu une notification comme quoi l'email ne pouvait pas être délivré. Donc, ces emails-là n'ont pas été acheminés dans la boîte mail destinataire de nos clients. Donc, c'est pas de l'email perdu, c'est à l'expéditeur de renvoyer. Nous avançons service par service, client par client. Et il faut comprendre qu'à chaque fois qu'on remet un service en place, on rajoute bien sûr des processus de sécurité supplémentaires. Donc ça demande énormément d'étapes de validation qui ralentit bien sûr la mise en service.
Ce qui fait qu'il resterait encore plusieurs semaines de travail pour relancer tous les services. Du côté des investigations, des pistes sur l'origine de la cyberattaque semblent se dégager. Mais l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information poursuit son travail. Il est 11h42, une pause dans ce journal avant de voir le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop. Ayez le réflexe, spray nasal pur essentiel aux huiles essentielles bio. La solution efficace, naturelle et non irritante qui dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est cliniquement prouvé et adapté aux plus jeunes dès 3 ans. Dispositif médical en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec une conférence de presse du FLNKS ce matin à Dumbéa. Le bureau politique du Front souhaitait réagir à l'élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès, mais aussi à la décision de la province sud de fermer pendant 4 jours les services provinciaux à l'île des Pins, Gilles Ménage.
Une conférence de presse en 3 points et en 3 points seulement, car toute autre question sur le congrès du FLNKS, sur les relations entre l'Union calédonienne et le Palika ou sur les discussions à venir à Paris ont été éludée, seul était possible l'ordre du jour, a commencé par une plainte déposée par des associations de femmes auprès de la gendarmerie pour le viol présumé d'une militante à Nouméa par les forces de l'ordre. Le BP dénonce un crime commis par les représentants de l'ordre. Le bureau politique qui dénonce également la décision des élus loyalistes du Congrès qui ont permis l'élection de Velma Falaeo à la présidence du Congrès. Décision qualifiée de déni de démocratie par Laurie Oumouni, porte-parole du bureau politique.
Pour nous, c'est un déni de démocratie, tout simplement parce que aujourd'hui, la première institution, elle a été démise d'un indépendantiste. Donc, ça fait 5 ans que le président Rocco Amitan est à la tête, en fait, de la première institution du pays. Et les dernières législatives ont montré qu'effectivement, les indépendantistes étaient majoritaires dans le pays. Et aujourd'hui, on se retrouve à voir cette présidence être évincée, en fait. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, la droite anti-indépendantiste s'est alliée pour pouvoir porter la candidature de Velma Falaeo à la présidence du Congrès.
L'éveil océanien avait soutenu le groupe UCFLNKS. Il l'avait même rejoint pendant un moment pour former cette majorité océanienne. Ils disent qu'ils avaient averti sur un certain nombre de choses qui n'allaient plus à plusieurs reprises. Ils avaient envoyé des messages qui n'avaient peut-être pas été entendus. Comment vous analysez leur réaction ?
Finalement, ils sont restés quand même neutres dans leur positionnement, c'est-à-dire qu'ils ont choisi de voter pour eux-mêmes. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est la droite qui s'est positionnée principalement pour les porter contre président Roch.
Le bureau politique du Front qui dénonce également la décision de la province sud, je vous le disais, de fermer les services provinciaux pendant 4 jours à l'Île-des-Pins à la suite de l'agression dont ont été victimes Virginie Rufenacht, la première vice-présidente du Congrès, et Laura Vandégout samedi. Réaction disproportionnée, estime Aloysio Sacco, le président du RDO qui assure l'animation du bureau politique.
Les FLNKS condamnent toute forme de violence, d'où qu'elle vienne. Ça, c'est le premier point. Deux, il ne faut pas mélanger les gens. Il y a une justice qui doit, par rapport aux fauteurs de troubles, les traduire devant les tribunaux et donner les sanctions. Ça, c'est le rôle de la justice. Et là, on s'aperçoit dans cette affaire que la province sud, de manière unilatérale, a puni toute une population par rapport au fait que nous évoquons là. Il y a pour nous discrimination.
Quant à la suite des travaux au Congrès, le bureau politique du FLNKS estime que des majorités seront facilement trouvables au regard de l'urgence sociale que connaît actuellement la Nouvelle-Calédonie.
Autre prise de parole ce matin, celle d'Inat Nekanaki, qui appelle à l'unité en vue de la déclaration de souveraineté des chefferies. C'est prévu le 24 septembre prochain à Marais, Isabelle Pelletier.
Oui, les chefferies veulent réaffirmer leur souveraineté le 24 septembre prochain, dans l'objectif, affirme-t-elle, d'une forme de reconquête d'autonomie. Inat Nekanaki, qui demande à Emmanuel Macron le renvoi du haut-commissaire Louis Lefranc et du procureur de la République, Yves Dupas, conteste l'application de la loi de la République et des opérations des forces de l'ordre sur leur territoire. On écoute Hippolyte Sinewami, le président d'Inat Nekanaki.
Dans la déclaration, c'est ni plus ni moins de réaffirmer en tout cas la souveraineté des royaumes, des grands chefs. Plus précisément aujourd'hui, depuis le 13 mai, où on voit que dans les discours en tout cas du haussaire et puis du procureur, la loi est faite pour tout le monde, que ce soit ici ou que ce soit en terre coutumière. Nous, on réagit aussi par rapport à tout ça aussi. On conteste parce que c'est nous qui faisons vivre la chefferie. Surtout que la souveraineté des chefferies, en tout cas au niveau terre coutumière, elle est garantie aussi par l'article 18 au niveau de la loi organique.
Mais alors pour vous, la loi de la République, elle ne s'applique pas sur le territoire des chefferies ?
Mais elle ne s'applique pas ou elle devrait être complémentaire.
Pour Inat Nekanaki, la reconnaissance de la pleine souveraineté des chefferies le 24 septembre prochain leur donnerait la forme d'une entité juridique pleine et entière qui leur permettrait, par exemple, d'aller chercher des financements ailleurs, comme chez des voisins du Pacifique.
On arrive à ce constat de dire que si la France ne nous aide pas, si la France ne fait rien pour nous, on n'a plus rien à faire avec la France aussi. Donc c'est dans la gestion de notre quotidien, on n'a pas eu de moyens. Même si on a la mairie, même si on a les provinces, mais la gestion coutumière que nous avons, elle n'est pas adaptée aussi à cette gestion. Donc si la France ne nous reconnaît pas, je veux dire en tant que souverain, si les moyens ne sont pas là, on ira demander autre part, quoi.
Les chefferies qui veulent donc donner forme sur leur territoire à une organisation sociale et économique qui leur serait propre. Des journalistes internationaux auraient été conviés en vue de cette journée du 24 septembre qui se déroulera à Gouret-Chabat-sur-Marais.
À Thiau, les établissements scolaires rouvrent enfin leurs portes de manière dégradée toutefois, car la commune connaît encore de vives tensions à ce jour. Une cellule de crise entre la mairie et les services de gendarmerie a eu lieu la semaine dernière, au cours de laquelle il a été décidé la réouverture de tous les établissements scolaires. Hier et aujourd'hui au collège La Colline de Thiau, ce sont les enseignants qui ont fait leur rentrée. Jeudi et vendredi, ce seront les élèves qui rentreront en mode dégradé, explique Badrizaman Messelem, le directeur de l'établissement.
Dans un premier temps, ce qu'on appelle en mode dégradé, sur des jauges de demi-journée pour le collège, et ensuite sans transport scolaire. Et l'idée, c'est d'essayer de dégager les axes routiers tout au long du trajet où habitent les élèves. Mais ça, c'est en négociation avec les membres de la CCAT et les gens qui mettent ces barrages. On a une perte des effectifs, 15% des élèves ont quitté le collège, donc il fallait à tout prix arrêter la saignée. La continuité pédagogique, c'est très très limité, surtout pour le public qu'on a ici à Thio. Les élèves n'ont pas forcément accès à Internet. Distribuer les livrets qu'on avait préparés, c'était compliqué. Et malheureusement, les élèves les plus fragiles qui ont besoin de la présence d'un adulte, voilà, là c'est vraiment la limite de la continuité pédagogique. On a des élèves qui décrochent scolairement, qui ne suivent plus, et ça se voit avec le travail qui n'est pas rendu, et la qualité aussi du travail qui est rendu. Il y avait vraiment urgence à reprendre en présentiel. La continuité pédagogique en distanciel fonctionne pour les bons élèves et les élèves qui ont une structure familiale et un accès à Internet. Pour les élèves les plus fragiles, c'est désastreux, hein, c'est catastrophique.
Une première rentrée se fait donc cette semaine à partir de jeudi pour les élèves, mais sans transport scolaire ni service de cantine pour des soucis d'approvisionnement en carburant ou de route encore bloquées. Dès lundi prochain, le collège La Colline rouvrira ses portes normalement aux horaires habituels de 8h à 16h.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Approuvez-vous la décision de la province sud de fermer les services provinciaux pendant 5 jours à l'île des Pins après l'agression dont ont été victimes samedi 2 élus, Virginie Ruffnac et Laurent Vendégout? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 79% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que l'objectif premier de la taxe sur le sucre qui vient d'entrer en vigueur est d'augmenter les recettes fiscales. Ils sont 21% à penser à l'inverse qu'elle a d'abord pour objectif la santé publique. Demain, l'Université de la Nouvelle-Calédonie organise les doctoriales. Jean-Marc Boyer, le directeur de l'école doctorale de l'UNC, est notre invité. Bonjour.
Bonjour Jean-François.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce rendez-vous important pour les doctorants et les doctorantes de l'UNC. Il s'agit en fait de leur permettre de présenter leurs travaux, de faire le point sur leurs recherches.
Alors oui, ça va se dérouler en 2 séquences. Une session le matin à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Une session l'après-midi à l'auditorium de la CCI. Et les jeunes devront présenter leurs travaux de recherche, mais pas sous la forme d'un séminaire de recherche. Il faut que le message soit accessible à des non-spécialistes. Voilà, ce que j'ai souhaité, c'est que ces doctorales puissent être pour eux l'occasion de se faire connaître au-delà du monde académique. Voilà, donc dans le jury, eh bien, il est à parité entre le monde académique et le monde économique et institutionnel.
Parce que s'il y a jury, ça veut dire qu'il y a un classement qui sera effectué à l'issue des doctorales ?
Alors, il y a attribution de prix. Voilà, il y a 3 prix, d'accord ? Le prix du meilleur exposé d'étudiants en première année, du meilleur exposé d'étudiants en deuxième année et au-delà, et un 3e prix sur la valorisation potentielle de ces travaux de recherche.
Alors, ce sont des sujets très variés qui sont choisis par les doctorants. Il y a des choses extrêmement techniques, il y a des sujets qui concernent plus la vie en société. C'est aussi pour montrer la pluralité des recherches qui ont lieu à l'UNC, ces doctorales.
C'est un exercice pour le doctorant. Ça participe à sa formation, savoir se présenter ses travaux en public. Et puis, c'est aussi porter la connaissance vers la société civile. C'est pour ça que c'est ouvert évidemment à tous et à toutes, et que l'on se projette nous aussi à l'extérieur de nos murs. Voilà, on va dans la société civile et surtout aussi vers de futurs employeurs potentiels. Voilà, donc ça a été ma démarche, ça a été mon engagement quand j'ai repris l'école doctorale qui a été longtemps dirigée par mon excellent collègue Yves Le Tourneur.
C'est aussi cet événement fait pour montrer le dynamisme finalement de la recherche à l'université et la capacité des étudiants à s'investir dans des sujets complexes et pointus.
Oui, c'est pour montrer évidemment tout ce qui se fait, ce qui se fait en partie sur le territoire, parce que tous les doctorants n'exposent pas demain ces doctorales-là, ils doivent impérativement...
Ils seront une dizaine demain.
Oui, ils seront une dizaine, mais au cours de leur préparation, de leur doctorat, ils doivent au moins faire une fois les doctorales pendant leur période d'inscription à l'école doctorale. Donc, vous avez dit, effectivement, c'est très varié. Il y a des sujets qui sont, on va dire, plus de sciences dures, de la chimie, de la microbiologie, mais également des sujets en SHS. Et en fait, on retrouve là aussi une bonne partie des organismes de recherche, d'accord ? Parce que ce n'est pas que l'université. L'école doctorale, effectivement, est un outil de l'université, mais c'est un outil au service de l'ensemble du CRECICA. CRESICA.
Le CRESICA qui regroupe tous les organismes de recherche présents sur le territoire. Hein.
C'est ça, c'est ça. Et donc demain, on aura des doctorants de Pasteur, de l'IRD, de l'UNC. Et notre école doctorale, elle est unique en fait dans le paysage de l'ESR, quoi, de l'enseignement supérieur et de la recherche français, puisque cette école est commune avec la Polynésie française. En fait, c'est la même école doctorale. Donc on accompagne les doctorants pendant leur formation, du point de vue administratif, mais également on propose une offre de formation qui est commune, donc c'est une offre qui est commune avec la Polynésie française. Et les jeunes doivent absolument faire des modules de formation. Alors il y en a un qui est obligatoire, c'est tout ce qui concerne l'éthique et la déontologie dans la recherche. Mmh. Module obligatoire. À chaque fois qu'ils passent des modules, il y a un certain nombre de points qui leur sont attribués. Et donc voilà, ils ont un catalogue et ils choisissent jusqu'à obtenir, aujourd'hui c'est 60 points, pour avoir le quota pour pouvoir présenter et soutenir leur doctorat.
Alors on l'a dit, c'est une dizaine de doctorants qui vont présenter leurs travaux demain, mais en tout aujourd'hui l'école doctorale accueille combien de doctorants? Il y a combien de travaux de recherche qui sont en cours?
Il y en a à peu près une cinquantaine, entre 45 et 50. Il y a d'ailleurs une thèse qui se soutient là bientôt. Le nombre de soutenances de thèse par an varie entre 6 et 12. Voilà, ça va dépendre hein, du rythme de chacun. Grosso modo, un doctorat se fait en 3 ans. Quand les doctorants sont embauchés sur un contrat doctoral, il y a des doctorants qui se financent eux-mêmes, qui sont des professionnels, qui ont un métier. Et là, on peut aller jusqu'à 6 ans pour faire son doctorat.
Alors, on sait que les événements que vient de connaître la Calédonie ont été difficiles pour un certain nombre d'étudiants. Est-ce qu'elle a pu perturber le travail des doctorants dans un certain nombre de domaines ?
Ah oui, tout à fait, oui. Ça a impacté les doctorants. Bon, d'abord, ça les a perturbés psychologiquement, mais ça a aussi impacté leur calendrier. Certains n'ont pas pu se rendre sur le terrain pour faire des prélèvements, pour interroger des gens, etc. Donc, ça a été pour certains très lourd. Il a fallu que les directeurs de thèse, avec leurs doctorants, revoient le programme de recherche qui avait été annoncé pour la thèse, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas toujours se faire. Donc c'est des mois là qui vont dériver. Au mieux de 2 mois, au plus 6-8 mois.
Est-ce que c'est un événement que vous souhaitez public? Parce qu'on l'a dit, l'objet c'est de rendre aussi accessibles les travaux. Est-ce que le grand public qui peut s'intéresser aux sujets qui sont présentés peut venir pour être aussi informé de ce qui est en train de se passer?
Ah, complètement. Complètement, c'est bien ce que j'ai souhaité, c'est que les doctorales soient accessibles au grand public. Donc je l'ai dit, maintenant ça fait 3 ans que j'organise les doctorales au titre de l'école, et c'est bien un fil conducteur, c'est être compris d'un non-spécialiste. Voilà, tout en faisant de la science, d'accord? Voilà, on fait pas du c'est pas sorcier, hein, donc, mais on fait de la science, mais de la science accessible. Donc, et c'est comme ça que d'ailleurs ils vont être appréciés et jugés aussi, parce que dans le jury il y a des non spécialistes.
Hein. Et est-ce qu'ils sont accompagnés pour la préparation de ce grand oral? Parce que pour eux c'est quand même un grand oral.
Ah, on va dire par rapport à une soutenance de thèse qui dure 45 minutes. Bon, c'est un petit exercice. Ils sont préparés. Ben oui, je le pense, je le crois, je l'espère, notamment par leur directeur de thèse, par ceux qui les encadrent, on va dire au quotidien.
Donc c'est doctoriel, c'est demain. Jean-Marc Boyer, on va rappeler les horaires pour ceux qui voudraient y assister, parce que c'est en 2 parties, hein, vous l'avez dit, la première partie c'est à l'UNC demain matin, on va dire que les premiers travaux présentés c'est à partir de 9h avec l'ouverture, et demain et l'après-midi c'est à partir de 13h30 à la CCI. L'idée de faire en 2 lieux, c'est justement pour faire en sorte qu'il y ait le plus de monde possible qui puisse se déplacer et venir écouter ce qu'on appelle les thésards.
Oui, et c'est aussi pour se projeter et pour aller vers les autres, pour projeter la connaissance en dehors de l'université et pas simplement attendre que les gens viennent.
Merci beaucoup Jean-Marc Boyer d'être venu dans ce journal pour nous présenter ces doctorales qui auront lieu donc demain à l'université et à la CCI. Il est 11h59, une nouvelle pause dans ce journal. Dans un instant, nous verrons ce qui fait l'essentiel de l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin. Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, pièges préventifs et barrières chimiques.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite d'InfoMag avec l'actualité nationale et internationale, on retrouve Jean-François Baudin.
Emmanuel Macron consulte, reconsulte et n'a toujours pas annoncé le nom d'un Premier ministre. À chaque jour, ses prétendants possiblement nommables. L'hypothèse Thierry Baudet, le président du CESE national qui a surgi ces dernières 48 heures, semble désormais enterrée. Et les deux favoris seraient toujours le président LRD Hauts-de-Seine, Xavier Bertrand, ou l'ancien Premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve. Le chef de l'État a soumis ses deux noms au groupe politique de l'Assemblée nationale. Sur l'hypothèse Cazeneuve, il n'a même pas reçu de réponse du nouveau Front populaire qui continue de brandir la menace d'une motion de censure pour tout candidat qui ne serait pas issu de ses rangs. Et ce n'est guère mieux pour Xavier Bertrand. Arthur Delaborde pour Europe 1.
Effectivement, Xavier Bertrand ne semble pas en mesure d'éviter d'avoir 289 députés votant la censure contre lui. Du côté du nouveau Front populaire, la réponse de l'insoumise Mathilde Panot est sans surprise.
Le groupe parlementaire, ce matin, dans sa réunion de groupe, a reconfirmé le dépôt d'une motion de censure immédiate en cas de nomination d'un gouvernement hors NFP et hors Lucie Castet. Puisque nous voyons bien qu'un président de la République a perdu deux fois les élections, mais se retrouve en train de composer son propre gouvernement.
Dans la configuration actuelle, le RN et ses alliés ciotistes, forts de leurs 142 députés, se retrouvent par conséquent en position d'arbitre. Or, l'entourage de Marine Le Pen confirme à Europe 1 que son groupe voterait automatiquement la censure en cas de nomination de Xavier Bertrand, qualifié d'outrancier et d'insultant à l'égard du RN. Autrement dit, si le président de la région Hauts-de-France venait à être nommé, il serait très rapidement censuré.
Et toujours au chapitre politique, Édouard Philippe officialise sa candidature à l'Élysée pour 2027. Le patron du mouvement Horizon le fait dans une interview à paraître dans le journal Le Point. Il ne s'était pas caché de ses intentions ces derniers mois, dont il avait d'ailleurs parlé à notre micro lors de son passage en Calédonie. C'était en mars dernier. L'actualité en métropole, c'est aussi ce nouveau drame de l'immigration dans la Manche. Une embarcation de fortune a été disloquée au large de Boulogne-sur-Mer. Une soixantaine de migrants étaient à bord. Il y a au moins 12 morts qui viennent s'ajouter aux 25 personnes déjà décédées depuis le début de l'année en tentant de rallier l'Angleterre, ce qui fait de l'année 2024 l'année la plus meurtrière en la matière sur la Manche. Et puis la colère d'une mère de famille de la Somme. Son fils est rentré d'une colonie de vacances en Bretagne couvert d'ecchymoses. Il a subi pendant une semaine un véritable déchaînement de violence de trois autres jeunes. La mère de famille a déposé plainte et demande que les animateurs soient sanctionnés. Son fils les avait prévenus de ce qu'ils subissaient sans qu'ils interviennent. Elle est évidemment très en colère.
Là, quand le directeur me dit « oui, mais ils vont être punis », mais punis comment? Ils vont copier des lignes, ils vont aller au coin, c'est une blague. Moi, je veux qu'ils soient punis par la loi et qu'on leur retire leur BAFA, tout simplement. On est bien d'accord qu'ils n'ont rien à faire en tant qu'animateurs, ces gens-là. Hein.
Des propos recueillis par nos confrères d'Europe 1. L'imam de la mosquée des Bleuets à Marseille sera jugé le 3 octobre prochain. Sa mosquée est déjà sous le coup d'une procédure de fermeture pour des prêches salafistes. Il comparaîtra cette fois-ci devant la justice pour apologie du terrorisme en raison de ses publications sur les réseaux sociaux. Et puis à l'étranger, 51 morts et 250 blessés en Ukraine après une frappe russe sur la ville de Poltava. Elle visait une institution militaire et cela provoque un début de polémique à Kiev. Les explications de Nicolas Tonev pour Europe 1.
Parce que cette cible de valeur semble avoir été en quelque sorte offerte à l'armée russe, un institut militaire, des soldats et des civils en nombre, facile à repérer. Le renseignement acquis est vite utilisé par les Russes avec l'emploi de deux missiles balistiques les plus rapides, les plus difficiles à détruire en vol et chargés de centaines de kilos d'explosifs pour des destructions terribles sur place, décrites par cette journaliste d'une télévision locale.
L'incendie vient d'être éteint, mais il y a encore beaucoup de sauveteurs qui travaillent dans les décombres. Ils essaient de sortir les personnes qui seraient encore ensevelies.
La polémique est lancée dans le pays après deux ans et demi d'expérience de guerre. De nombreux spécialistes militaires reprochent aux autorités le non-respect de cette mesure de sécurité essentielle. Pas de rassemblement visible ou susceptible d'être observé et transmis à l'ennemi. Volodymyr Zelensky a ordonné une enquête complète et rapide sur les circonstances ayant permis cette attaque.
Il est midi 4, une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et elle est assez riche.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Tout le sport en trois lettres. RRB.
Et avant de retrouver Jean-François Baudet, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Et on va d'abord parler de l'actualité sportive sur le territoire, Michael Juneski, avec du football. La Fédération calédonienne a présenté ce matin son projet Élite Excellence.
Oui, l'occasion pour la Fédération de faire le point d'étape sur les chantiers qui ont porté leurs fruits et sur les perspectives futures pour les sélections. Cette année, on le rappelle, les moins de 17 ans et les moins de 20 ans ont validé leur place au mondial de leur catégorie d'âge en 2025. Les féminines de moins de 17 ans vont essayer de les imiter à partir de ce week-end, tandis que la sélection A commencera aussi sa campagne qualificative, cette fois en vue du mondial de 2026, début de l'aventure en octobre prochain. Johan Sidaner, le responsable des sélections calédoniennes.
D'en qualifier une, c'est déjà quelque chose. D'en qualifier deux, dans ces conditions où on connaît, sur, notamment sur toute la préparation d'avant compétition, où les garçons n'ont pas joué pendant plus de 8 ou 10 semaines, c'était complètement inespéré. D'où cette satisfaction et bien plus encore. L'idée, quand on est dans le sport, c'est toujours chercher à s'améliorer. On a vu nos limites et le manque d'expérience. On veut combler ce manque d'expérience en créant ce pôle élite dans quelques semaines. On aimerait s'implanter et travailler pendant ces 11 mois qui vont jalonner la compétition, la Coupe du Monde, travailler sans faire des choses extraordinaires, mais travailler de manière habituelle et régulière, chose qui est parfois compliquée ici, mais qu'on essaye d'instaurer. Quand on voit ce qu'on a été capable de faire avec les sélections de jeunes, la fédération met les moyens, on a depuis plusieurs mois, on travaille sur ce projet. On a prouvé avec la médaille d'or aux Jeux du Pacifique qu'on était parmi les favoris en Océanie. Il va falloir maintenant le prouver dans un groupe qui sera relevé avec trois nations. Chaque point vaudra de l'or.
Et malgré les conditions actuelles qui compromettent largement la pratique du football, la Fédération calédonienne veut poursuivre le travail commencé, avec en premier objectif la consolidation des acquis de ces dernières années pour que les sélections continuent de prendre les places qualificatives aux mondiaux des différentes catégories d'âge. Un travail de fond dans ce projet élite pour continuer de former des joueurs et des joueuses de haut niveau, tout comme des encadrants, mais aussi d'aller chercher les meilleurs potentiels dans les catégories d'âge inférieurs, de 13 à 15 ans, comme le préconise la FIFA, afin de préparer la relève. Un plan de perfectionnement et d'accompagnement donc des talents du ballon rond calédonien. Et enfin, continuer les démarches pour trouver des sponsors afin d'accompagner les équipes de Calédonie dans les aventures en Coupe du Monde.
Les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Jeux paralympiques à Paris, on va faire un point, Mickaël, sur les dernières performances du jour de la délégation française.
Ouais, pas de titre aujourd'hui pour les Bleus, mais plusieurs podiums, notamment en paranatation. Hugo Didier n'a pas réussi à décrocher une deuxième médaille d'or, mais il a terminé deuxième du 100 mètres d'eau S9, encore une fois soutenu par le public français. On l'écoute.
Je pense qu'il manquait ce quelque chose en plus, voilà, que j'avais sur le 400. Les trois jours de descente ont été assez compliqués. C'est compliqué de descendre de telles émotions qu'on a la chance de vivre et de partager, surtout avec le public français, avec tous nos proches, nos familles. Ce public est vraiment incroyable.
Et toujours en paranatation, le Réunionnais Laurent Chardard a aussi décroché l'argent sur le 50 mètres papillon. C'est la première médaille paralympique pour l'ancien surfeur, victime d'une attaque de requin qui a perdu, on le rappelle, son bras droit et sa jambe droite en août 2017. Alex Portal a quant à lui remporté sa troisième médaille d'argent dans les bassins parisiens sur le 200 mètres 4 nage SM13, soit sa quatrième dans cette Olympiade. En tennis de table, Fabien Lamiro s'est assuré de gagner la médaille de bronze en double messieurs MD4 avant de jouer la demi-finale du tournoi individuel. Ce soir, Matteo Boas a aussi décroché la troisième place dans la catégorie MS10.
Et du coup, vous avez fait les comptes pour le classement des médailles.
La France est toujours au cinquième rang. Un total de 38 médailles, dont 11 en or, 12 en argent, 15 en bronze. La Chine domine largement la compétition. 115 podiums et 53 médailles d'or, loin devant le Royaume-Uni et les États-Unis. Les Brésiliens sont quatrièmes, avec 3 médailles d'or de plus que les Bleus sur 48 podiums au total. Alors, il y aura encore des chance de titres ce soir. Fabien Lamiro, donc, qui disputera la demi-finale du tournoi individuel de paratennis de table, le double messieurs en paratennis, avec notamment Stéphane Houdet, déjà titré à Rio, Pékin et Tokyo, qui jouera la demi-finale. La délégation française compte aussi sur les Bleus en paracyclisme, en escrime fauteuil, les épreuves de paranatation qui continueront également, tout comme le para-athlétisme, le para-tir avec Tanguy Forest et Justine Bève en compétition mixte SH2. Notez encore que l'équipe de France de Cécifoot s'est qualifiée pour la demi-finale du tournoi après avoir battu la Turquie 2-0.
C'était les pages spéciales des Jeux Paralympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Allez, le reste de l'actualité sportive avec d'abord du tennis et la suite de l'US Open.
Et l'américaine Emma Navarro s'est qualifiée pour les demi-finales. Déjà tombeuse de la tenante du titre Coco Gauff, elle a battu l'espagnole Paola Badosa en 2-7. Dans le tableau, messieurs, l'américain Taylor Fritz s'est hissé dans le dernier carré en dominant l'allemand Alexander Zverev 7-6, 3-6, 6-4, 7-6. Notez qu'il n'y a plus de Français en lice dans les tableaux en simple. Kristina Mladenovic s'est tout de même qualifiée pour les demi-finales du double dames associé à la chinoise Sui Zhang.
En cyclisme, Marc Soler a remporté la 16e étape du Tour d'Espagne.
Ouais, l'Espagnol qui s'impose en solitaire pour signer sa 3e victoire d'étape sur cette édition de la Vuelta. Pendant ce temps, la lutte continue de faire rage entre le leader du classement général, l'Australien Ben O'Connor, et son premier poursuivant, Primoz Roglic. Le Slovène ne compte plus que 5 secondes de retard sur le maillot rouge à 5 jours de la fin de ce Tour d'Espagne. Ce soir, le peloton s'élancera sur une 17e étape longue de 141 km jusqu'à Santander, c'est dans le nord de l'Espagne.
Et puis une toute dernière petite info pour les fans de football. On connaîtra ce soir les nominés pour le Ballon d'Or 2024. La cérémonie pour désigner celui qui sera le successeur de Léo Messi chez les messieurs se déroulera le 28 octobre prochain. Midi 12, c'est la fin de ce journal.